Ces marins qui ont donné leur nom au quai de Bayonne. Nous retrouvons Marilyn Chevrel de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne pour la deuxième partie de sa conférence enregistrée à la Peña Taurine Côte Basque le 22 septembre 2021. Aujourd'hui, Marilyn Chevrel nous parle plus particulièrement des marins Dubourdieu et Roquebert.
Le second, par ordre chronologique, c'est Bernard Dubourdieu, qui est donc né 2 ans après, en 1973, et qui meurt jeune, en 1811. Au XVIIIe siècle, son grand-père paternel, Pierre Dubourdieu, originaire de l'Escar, est venu s'installer à Bayonne, où il a fait souche. Son père Jean est maître tonnelier dans la rue Sabaterie, donc Bernard Dubourdieu est né dans la rue Sabaterie, en 1773. Son père, en 1770, épouse en troisième noce Catherine Castets, qui lui donne 6 enfants, dont le deuxième est Bernard, donc né le 28 avril 1773. Dès son plus jeune âge, Bernard Dubourdieu est attiré par le métier de marin, mais son père n'approuve pas cette inclination. Aussi, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une vocation sérieuse, il l'autorise à s'enrôler dans la marine marchande à l'âge de 16 ans. Bernard embarque à destination de Lisbonne à bord de l'Alliance, un brigantin de Bayonne, capitaine Jean Argous. Après 2 ans de campagne, le jeune homme confirme son désir de faire carrière dans la marine et son père, convaincu, lui facilite les choses en l'inscrivant à l'école d'hydrographie de Bayonne, où il entre en 1791, ayant justifié, comme il était de mise, de savoir lire, écrire et les 4 règles d'arithmétique. Cette école d'hydrographie de Bayonne était située rue d'Espagne. Elle propose une formation en 2 ans qui prépare les élèves à une carrière d'officier dans la marine marchande. Mais à l'issue de sa scolarité, comme l'avait fait Bergeret, Dubourdieu saisit l'opportunité de rejoindre la marine de l'État qui procède alors, on l'a vu, à des recrutements d'officiers. Le moment est donc très bien choisi pour un jeune homme intelligent et vaillant comme lui de faire carrière dans la marine de guerre. En 1792, il est inscrit sur les rôles de la marine de l'État et dirigé vers Toulon, où il se fait remarquer pour sa bonne connaissance de la mer. Il embarque comme timonier sur l'Entreprenant, un vaisseau de 74 canons, puis l'année suivante, il est aspirant à bord de la Topaze, une frégate de 32 canons qui fait partie de l'escadre de l'amiral Latouche Tréville, en partance pour Naples et Cagliari en Sardaigne. À l'issue de cette campagne, à la fin de l'année 1793, la flotte rentre à Toulon, ignorant que la ville est aux mains des Anglais. Les équipages sont capturés et Dubourdieu, après une tentative d'évasion qui échoue, se trouve dans le contingent dirigé vers les pontons de Gibraltar, connus de sinistre mémoire, comme tous les pontons anglais. Vous voyez que les pontons, en fait, ce sont d'anciens bateaux qui sont amarrés, échoués, et où on enferme les prisonniers anglais, et je peux vous dire qu'ils sont à l'intérieur très très maltraités. Aussi, après 8 mois de détention, Dubourdieu n'en peut plus, et avec ses compagnons d'infortune, préfère risquer leur vie pour recouvrer leur liberté. Ils profitent d'une nuit noire pour s'emparer d'une chaloupe anglaise qui permet au groupe de 24 hommes d'aborder un petit navire anglais de 10 canons, le Temple, dont ils se rendent maîtres en capturant l'équipage. On voit ici la scène où ils se rendent maîtres du Temple en menaçant le capitaine du bateau. Dubourdieu prend le commandement du navire qu'il manœuvre habilement dans la noirceur, sans éveiller les soupçons des autres bâtiments mouillés dans la rade. Et après 1 mois de navigation, ils parviennent à rallier l'île Dieu, puis l'Orient, le 31 décembre 1794. Cet exploit renforce sa réputation de bravoure et d'intrépidité et vaut à Dubourdieu les honneurs du moniteur officiel du 12 pluvieuse en Troyes, donc du 31 janvier 1795, ainsi que les félicitations de la Convention nationale. Ce fait n'est pas non plus étranger à sa promotion au grade d'enseigne de vaisseau à titre provisoire à l'âge de 23 ans. Dès lors, Dubourdieu sert sur plusieurs bâtiments, dont la corvette La Réjouie, à bord de laquelle il prend part à la surveillance des côtes de Bretagne afin de protéger les navires de commerce. L'année suivante, il est promu enseigne de vaisseau à titre définitif, mais la malchance va continuer à le poursuivre. En effet, en 1797, il embarque sur la corvette La Gaîté, à destination de Cayenne, qui rencontre en chemin l'Arethusa, une frégate anglaise de 38 canons. Après 2 heures de combat acharné, La Gaîté doit amener son pavillon. Blessé à la jambe, Dubourdieu est à nouveau prisonnier des Britanniques, qui le ramènent en Angleterre et le surveillent étroitement, si bien qu'il n'a aucune chance de tenter une évasion. Il ne sera libéré qu'en 1799, après 18 mois de captivité. À sa libération, il est affecté sur le côtre Le Serpentin, puis en février 1800, il embarque sur la frégate La Régénérée, commandée par Edmond Richer, qui 2 ans auparavant, peut-être certains s'en souviennent parce que je l'avais présenté dans une conférence, avait réussi avec la corvette La Bayonnaise l'exploit de prendre à l'abordage la frégate anglaise L'Embuscade au large de l'île de Ré. La Régénérée quitte Rochefort avec la frégate L'Africaine à destination d'Alexandrie pour y apporter des vivres, des munitions et un détachement de 1500 hommes de troupes destinés à venir en aide au corps expéditionnaire français en Égypte. Pendant la traversée, l'Africaine est prise par les Anglais, mais la Régénérée arrive à se faufiler et, entre les mailles du filet et arrive sans encombre en vue d'Alexandrie, où elle hésite sur la conduite à tenir car la menace anglaise est omniprésente, non seulement sur mer mais également sur terre. Et les signaux faits devant le port sont restés sans réponse. Dubourdieu propose alors de se rendre à terre avec la yole du bord et 4 hommes de bonne volonté pour reconnaître le terrain. Il réussit cette dangereuse entreprise qui permet aux troupes de débarquer en lieu sûr sans coup férir. Le général Menou, qui succède à Kléber à la tête de l'armée d'Orient, apprécie notre homme qui, selon lui, est un officier actif, brave et appliqué à son métier. L'ayant chargé de différentes missions remplies avec succès, il demande sa promotion au grade de lieutenant de vaisseau en avril 1801, avant même son retour en France. Aussitôt promu, Dubourdieu se voit confier le commandement de l'aviso L'Écrevisse, avec lequel il doit remplir une mission de confiance, apporter des courriers importants en métropole. Il réussit à atteindre les côtes de l'Adriatique, où il est intercepté par un brick anglais, le Corso. À nouveau capturé, il est conduit à Raguse, sur la côte d'Almate, mais il réussit à se faire libérer, certainement par un échange de prisonniers, assez rapidement, donc grâce certainement à un échange de prisonniers. Il gagne le port de Tarente, d'où il expédie les dépêches qu'on lui avait confiées, et rentre à Toulon. À la fin de l'année 1801, il reçoit l'ordre de se rendre aux Antilles pour y prendre le commandement de la corvette La Coureuse, stationnée en Martinique. Quand Dubourdieu débarque à Fort-de-France, la ville est en proie à une épidémie de fièvre jaune qui faillit l'emporter. Pendant 1 an, il commande la station de Sainte-Lucie, puis par sillonner les Antilles pour assurer la défense des côtes après la rupture de la paix d'Amiens en 1803. Il prend ensuite le commandement de la rade de Saint-Pierre et, dans cette ville, il fait la connaissance d'une jeune fille, Marie-Philippe Lange, qu'il épouse le 16 août 1803. Feu, le père de la mariée, était négociant et sa mère, remariée, une demoiselle Etcheverry, est originaire de Bayonne. Dubourdieu décrit lui-même ainsi sa fiancée. Elle est sensible, vertueuse, aimante, assez jolie, et ce qui vaut bien mieux encore, bien élevé. De cette union naîtront 3 enfants, Louis, Clément et Eugénie, dont nous reparlerons vers la fin. Dans la nuit du 4 mai 1804, sa corvette est attaquée par surprise par 3 chaloupes détachées du vaisseau anglais, le Blenheim, et montées chacune par 35 hommes. Réagissant promptement, il réussit à encouler 2, dont les équipages sont tués ou noyés, et met la troisième en fuite. L'amiral Villeray de Joyeuse, commandant les forces navales dans les Antilles, le félicite pour cet acte de courageuse résistance et en fait rapport au ministre avec une demande de récompense. En fait, Dubourdieu semble très proche de l'amiral Villeray, qui est le parrain de son fils aîné, Louis, qu'on a prénommé Louis-Napoléon Thomas, qui est né le 15 juin 1804, donc à la Martinique, et dont la marraine est Rose de Sannois, veuve tachère de la Pagerie, la mère de l'impératrice Joséphine. Les deux hommes sont francs-maçons et font partie des membres fondateurs de la loge L'Harmonie à Saint-Pierre de la Martinique. On ignore où a été initié Dubourdieu, mais on sait que la loge bayonnaise, la Zélée, lui avait délivré son diplôme de maître en octobre 1799. Donc il a pu être initié avant cette maîtrise à Bayonne ou bien dans une autre ville qu'il aurait fréquentée. Au mois de septembre 1805, un terrible ouragan dévaste la rade de Saint-Pierre, détruisant une vingtaine de bâtiments. Dubourdieu participe activement au sauvetage des naufragés et n'hésite pas à se jeter lui-même à l'eau pour en secourir un certain nombre. Cette belle action ajoute à l'estime dont il jouit dans la colonie et le préfet signale cet acte de courage dans une nouvelle lettre de recommandation envoyée au ministre de la Marine. En juillet 1806, il reçoit sa nomination de capitaine de frégate et rentre l'année suivante en France. Il débarque à Bordeaux, où il prend le commandement de la frégate La Pénélope, puis en début de 1807, de conserve avec la frégate La Thémis, il appareille pour Toulon, où il a été affecté et a déjà fait venir sa famille. Le voyage des deux navires entre Bordeaux et Toulon est difficile, mais sera particulièrement fructueux, puisqu'il capture en route 13 bâtiments britanniques, dont deux corsaires, et font plus de 300 prisonniers. Ces faits d'armes portés à son crédit lui valent l'année suivante sa nomination au grade de capitaine de vaisseau. À Toulon, Dubourdieu conserve le commandement de la Pénélope et passe sous les ordres de l'amiral Gantôme, qui lui confie plusieurs missions, d'autant plus périlleuses que la flotte anglaise croise au large. Pour desserrer cet étau, Dubourdieu reçoit l'ordre de s'emparer d'un vaisseau ennemi. Le 27 juin 1808, avec la Pénélope et la Pauline, commandées par le capitaine Montfort, il poursuit la frégate anglaise Proserpine, armée de 44 canons, et l'oblige à se rendre avec ses 240 hommes d'équipage. Cette action, qui ne lui a pas coûté un seul homme, a un grand retentissement et lui vaudra l'année suivante la croix d'officier de la Légion d'honneur. Il avait déjà été fait chevalier en 1806. N'ayant pu envahir l'Angleterre, Napoléon forme le projet de faire de l'Adriatique une mer italienne pouvant servir de base à des opérations navales contre l'Angleterre. Mais il est tenu en échec par les Anglais qui détiennent plusieurs points stratégiques comme l'île de Lissa au large de la côte dalmate qui s'appelle aujourd'hui l'île Vis et qui est une ville croate. En 1810, décret que nous retrouvons, ministre de la Marine met Dubourdieu à la disposition du prince Eugène, vice-roi d'Italie, afin de constituer une escadre en Adriatique. Il lui écrit « Il faut gagner là, par vos services, une distinction toute particulière. Je ne pouvais vous mettre sur un théâtre où vous puissiez ressortir davantage. C'est parce que je vous ai cru une forte et noble ambition et le désir de chercher des occasions extraordinaires que j'ai obtenues de Sa Majesté qu'elle vous mit sous les ordres du prince. » Dubourdieu rejoint Ancône, où il est basé, et n'a de cesse de vouloir prendre aux Anglais l'île de Lissa. Vous voyez, l'île de Lissa, donc elle est entre l'Italie et l'Adriatique, beaucoup plus près de la côte croate. Le 22 octobre 1810, il quitte Ancône avec deux frégates et force l'entrée du port de Lissa. Il y détruit les dépôts anglais, incendie les bâtiments au mouillage et revient à Ancône avec 6 prises et 300 prisonniers en échappant au navire anglais parti en mer. Valorisé par ce nouveau succès, Dubourdieu est désigné pour former une division navale à Venise et passe l'hiver à entraîner au combat des équipages disparates composé de marins français, italiens et illyriens. Il faut préciser que pour cette désignation, Dubourdieu était en concurrence avec un autre officier, le capitaine de vaisseau Pandiez, un officier plus ancien que lui. Et pour trancher ce problème, le vice-roi Eugène propose à Napoléon, en février 1811, d'élever le capitaine de vaisseau Dubourdieu au grade de contre-amiral. Ce même mois d'hiver, il reçoit l'ordre d'embarquer un bataillon de 550 hommes de l'infanterie italienne placé sous les ordres du colonel Glyfinga, aide de camp du vice-roi, et de prendre possession de Lissa pour y établir une base française. Le 11 mars, au soir, sur la frégate de 44 canons La Favorite, qui arbore son pavillon, il prend la mer à la tête de la division alliée composée de 6 frégates, 3 françaises, 3 italiennes, 3 brigues italiennes, une goélette et un chebec. C'est vraiment une division disparate. Excellent dans les actions individuelles, comme il l'a déjà prouvé, Dubourdieu ne saura pas coordonner l'engagement de cette division disparate franco-italienne. Le 13 mars au matin, non loin de l'île de Lissa, la division anglaise s'approche et se met en ligne en face de l'ennemi. Vous voyez, donc, j'ai vous souligné en rouge la Favorite, le bateau de Dubourdieu. La Favorite se porte en avant et se trouve très vite isolée des autres bâtiments restés en arrière. Dubourdieu met en panne pour les attendre, prenant le risque de concentrer sur lui le feu des 4 vaisseaux anglais. C'est ce qui ne manque pas d'arriver. À 9h10, Dubourdieu est tué sur le pont d'un coup de biscaïen, c'est-à-dire un mousquet de gros calibre. Il reçoit donc le boulet en plein cœur. Dès le début du combat qu'il a engagé contre la frégate anglaise Amphion, voilà d'autres vues de la bataille de Lissa. Et celui donc qu'il a tué, c'est le bateau que vous voyez ensemble, au centre, l'Amphion. Il est donc tué dès le début du combat qu'il a engagé contre la frégate anglaise L'Amphion. Tout son équipage est décimé avec lui. Sur les autres navires, les officiers, les hommes et les soldats font preuve du plus grand zèle et il semble que s'il y avait eu plus de coordination dans l'engagement, l'ennemi inférieur en nombre aurait pu être battu. La promotion au grade de contre-amiral proposée par le prince Eugène n'ayant pu aboutir dans un si court délai, Dubourdieu a péri au combat, a péri au champ d'honneur à l'âge de 36 ans avec le grade de capitaine de vaisseau. Cependant, Napoléon verse à sa veuve une pension de 2500 francs, équivalente à celle d'un contre-amiral, d'où la confusion qui s'ensuivit pour certains, même pour certains historiens. Le grade de contre-amiral, comme le titre de baron d'empire qui avait également été proposé, n'ont pu être effectifs du fait de son décès. À l'époque, on ne pouvait pas accorder de grade ou de titre à titre posthume comme aujourd'hui. C'est son fils aîné Louis qui portera le titre de baron du, plus loin, Bourdieu, et son petit-fils Philippe, fils de Clément, frère de Louis, qui obtiendra des lettres patentes confirmant ce titre le 20 août 1864. Le capitaine de vaisseau Bernard Dubourdieu a eu 3 enfants. Louis, on en a parlé, qui est né à la Martinique, dont on a évoqué donc le baptême, qui, lui, a terminé sa carrière comme vice-amiral. Donc, pour Bayonne, l'honneur est sauf. En fait, il y a bien un amiral Dubourdieu. Ce n'est pas le Bayonnais, mais son fils est amiral. Et donc, comme la plaque toponymique ne porte pas d'autre indication que amiral Dubourdieu, disons que l'honneur est sauf. Donc, son fils Louis, vice-amiral, sénateur et préfet maritime de Toulon, qui n'a eu que 3 filles, donc il n'y a pas de descendance directe de son fils, est né Clément, né en 1805, commissaire général de la marine, qui est mort en Algérie en 1854. Père de Philippe, le seul descendant mâle de la fratrie. Eugénie, qui est née à Venise, pendant qu'il était là-bas, en janvier 1811, qui s'est mariée avec le contre-amiral Jeannin. Voilà la lettre datée du 21 janvier à Venise, dans laquelle Dubourdieu annonce la naissance de sa fille au préfet maritime de Toulon, avec lequel il était resté en correspondance. On a donné son nom à un croiseur à batterie lancé à Cherbourg le 6 décembre 1884. Voilà pour notre deuxième marin du jour. Et enfin, le troisième, Dominique Roquebert, qui est né un an après, donc en 1774, et qui va mourir, vous l'aurez remarqué, la même année, avec un an même d'écart, la même année que Dubourdieu. On va le voir dans des circonstances que moi je trouve assez semblables. Son père, Étienne Roquebert, originaire de Seps, un village du Comminges situé en Haute-Garonne, est venu s'installer à Bayonne comme aubergiste. Il y tient l'auberge aux Armoiries de France située rue Panecaud. En 1763, il épouse Marie Vergès, originaire de Castel-Sarrazin, un village, non pas comme vous le croyez, mais un village de la Chalosse, qui est situé entre Pomarès et Hamou, que personnellement, moi, je ne connaissais pas, qui lui donnera 10 enfants, parmi lesquels Dominique, né le 5 juin 1774, est le 4e fils et le 8e enfant. Dominique Roquebert est donc né rue Panecaud. Dès son plus jeune âge, il est attiré par la mer, comme ses frères aînés, Jean est lieutenant de vaisseau et courtier maritime, François est capitaine de vaisseau, officier de la Légion d'honneur. Après l'école d'hydrographie de Bayonne, qui prépare, on le sait, à la carrière d'officier de la marine marchande, Roquebert, comme les autres Bayonnais, profite des opportunités de recrutement pour intégrer la marine de guerre. D'emblée, on note des points communs entre Roquebert et Dubourdieu. Ils sont nés, on l'a vu, à un an d'intervalle. Ils sont morts au combat, au printemps de la même année 1811, sur des théâtres d'opérations très distants, mais dans des circonstances comparables. Ils sont abattus tous les deux sur le pont de leur vaisseau, engagés en première ligne devant l'ennemi, et tués par le feu de la marine britannique. On peut penser qu'ils ont fréquenté en même temps l'école d'hydrographie de Bayonne, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils se connaissaient, car dans une lettre adressée à M. Manche, un courtier bayonnais avec lequel il correspondait, Dubourdieu évoque la mort de Martinis, un ami de Roquebert, survenu en mars 1800 en Égypte. Par ailleurs, on connaît déjà les liens existants entre Roquebert et Bergeret. Son frère aîné Jean Roquebert, courtier de marine, veuf d'un premier mariage, se remarie en 1802 avec Jeanne-Brigitte Bergeret, sœur de l'amiral. On a vu aussi que tous les enfants Bergeret qui sont nés dans l'ancienne maison L'Archevêque, située au bout du port de Castets, à l'angle du quai Pont-Traversant, est devenue donc quai Roquebert, et que cette maison, après avoir été la propriété Bergeret, est devenue donc dans la famille Roquebert. Dominique Roquebert se fait remarquer pour la première fois en juillet 1805 dans le cadre de la flottille de Boulogne, à la bataille de Fécamp, où, lieutenant de vaisseau, il commande la corvette canonnière l'Audacieuse qui assure l'arrière-garde d'une trentaine de navires faisant voile du Havre à Fécamp. Il se bat avec mordant et acharnement contre la division anglaise venue attaquer l'arrière du convoi et demande par signaux la permission d'aborder un navire anglais. Au vu de l'état de la mer, sa demande est rejetée et Roquebert, poursuit le combat au canon avec acharnement, causant de lourds dégâts au bâtiment anglais, mais en regrettant de n'avoir pas pu aller à l'abordage. Il a la trentaine passée quand il épouse le 20 août 1806 à Boulogne-sur-Mer Louise-Marie Benoîte Le Porc d'Erlin, dont il aura une fille unique, Anceline Thérèse Lucie, née en 1808. Son épouse est la veuve de François Abbeau de Banzingen, avocat, conseiller à la Cour des Monnaies, qui, vous le voyez à gauche, là, le document de gauche, fait référence à ce premier mari, qui est décédé en 1799, à laquelle elle avait donné un fils, François, qui est entré dans les gardes du corps du roi. Devenue veuve de Dominique Roquebert, elle épousera en troisième noce un autre marin, l'amiral baron Antoine Melchior Vattier, officier et homme de lettres. Et vous voyez une publication à droite de cet homme, le triomphe de l'amitié. En 1809, décret le ministre de la Marine envoie Roquebert en Guadeloupe, la seule colonie encore aux mains des Français, mais cernée par un blocus anglais, avec pour mission de réapprovisionner l'île et de renforcer sa défense. Partie de Brest le 15 novembre, l'expédition comprend 4 navires, 2 frégates de 20 canons armées en flûte qui transportent des troupes et des fournitures, et 2 frégates de 40 canons, la Clorinde commandée par Jacques de Saint-Cricq, et la Renommée, dont je n'ai malheureusement qu'une maquette à vous montrer, qui est au Musée national de la Marine, et la Renommée qu'il commande lui-même. et qui sont chargés de protéger les deux flûtes, les deux navires de transport, contre les forces britanniques qui opèrent au large des côtes françaises et guadeloupéennes. Voilà une autre maquette de du bateau. Les vaisseaux ont presque atteint les Caraïbes sans faire de mauvaises rencontres quand le 13 décembre, la Junon, une frégate anglaise armée de 46 canons et 300 hommes d'équipage, repère une partie du convoi et passe à l'attaque. Ensemble, les deux frégates s'emparent à l'abordage de l'anglaise qui sera livrée aux flammes. Le convoi poursuit sa route en longeant de près les côtes d'Antigua, de manière à arriver du nord par le nord sur la Guadeloupe, afin d'éviter les voiles anglaises, mais les deux frégates s'échouent, tandis que les flûtes peuvent éviter l'obstacle et poursuivre leur route. Malheureusement, les deux bateaux sont abîmés, sont avariés, la Renommée n'a plus l'usage de son gouvernail et doit jeter 19 canons à la mer. La Clorinde sacrifie également 11 canons et une partie de ses boulets pour pouvoir se renflouer. Les deux frégates ont perdu de vue les deux flûtes et après un temps de recherche, de vaines recherches, Roquebert suppose qu'elles ont fait route vers leur destination et jugeant inutile d'aller jusqu'à la Guadeloupe, décide de repartir vers la France. On peut donc juger qu'il n'a pas mené exactement sa mission jusqu'au bout. Or, un brick britannique témoin de la prise de la Junon alerte les navires anglais qui stationnent au large de l'île de Basse-Terre. Quant aux flûtes, après avoir vainement cherché à apercevoir les deux frégates, elles se réfugient dans une baie abritée de la côte sud-est de la Guadeloupe. Et là, elles sont attaquées par les Anglais, qui s'en rendent maîtres après une heure de combat. Gravement endommagées, les flûtes sont mises à feu par leurs propres équipages et entièrement détruites pour ne pas que les Anglais s'emparent du butin. Cet épisode a renforcé le blocus de l'île et a accéléré la prise de la Guadeloupe par les Britanniques. Le voyage de retour en France des deux frégates s'avère cependant très fructueux. Non seulement Roquebert et Saint-Cric ont échappé aux patrouilles anglaises, mais ils ont amariné plusieurs bateaux. Le San José, portant un chargement de vin de Malaga à La Havane, le Nancy, un brick de 260 tonneaux, la Louisia Cecilia, chargée de denrées coloniales, le Phénix, portant des denrées comestibles à Lisbonne, le Charme, une goélette terre-neuvienne, le Hope, portant à Tobago un fret de quincaillerie, l'Ariel, une lettre de marque de 18 canons, l'Ours, enfin, portant 14 canons. Au total, 8 prises apportées au crédit de leur gloire et à celle de la France. Ces faits d'armes attirent sur Roquebert l'attention du ministre de la Marine, Decret, qui l'intègre dans les marins de la garde impériale, avec le grade de lieutenant-colonel. Pendant ce séjour dans la garde impériale, il commande le Manche, la frégate de l'empereur, qui est stationnée à Cherbourg. En fait, je vous ai réécrit à droite, je ne sais pas si vous pouvez le lire, vous lisez ce qui est écrit sur le dessin. Donc la frégate La Manche, armée à Cherbourg en 1806, commandée par M. Dominique Roquebert, capitaine de frégate de la garde impériale, officier de la Légion d'honneur. Il a été nommé au sein de la garde impériale, mais la vie à terre le lasse très vite, il se lasse de cette vie un petit peu immobile. Aussi est-il très satisfait de se voir chargé au début de 1811 d'une mission dans l'océan Indien, où Français et Anglais se disputent la domination des Mascareignes. Il s'agit les Mascareignes, je vous rappelle, c'est un groupe d'îles qui est tout près au large de Madagascar, qui comprend la Réunion, l'île Maurice et l'île Rodrigue. Rodriguez, je ne sais pas comment on dit. Rodrigue. Il s'agit d'apporter à l'île de France, donc l'île Maurice, des renforts en hommes et en matériel avec une division de 3 frégates. Dans le cas où l'île serait occupée par l'ennemi, ses instructions l'enjoignent à rallier Batavia, dans l'île de Java, en Insulinde, et à y débarquer les hommes et l'armement. Le 3 février 1811, Roquebert quitte Brest. Il quitte Brest à bord de la Renommée, donc de conserve avec la Clorinde, capitaine Saint-Cric, et la Néréide, capitaine Le Maresquier. Chacune des frégates transportant 200 hommes. Voilà la frégate, la Néréide. chacune des frégates transportant 200 hommes de troupes et des approvisionnements. À cette date, la nouvelle de la prise de l'île par les Anglais, le 2 février, n'est pas encore parvenue en France. Les frégates essuient une rude tempête dans le golfe de Gascogne. Elles ont du mal à rester ensemble et n'avancent que très lentement. Après avoir coulé un brick anglais et une goélette venant d'Espagne le 24 février, Roquebert capture un bateau de commerce portugais à bord duquel il trouve des journaux de Lisbonne annonçant l'invasion de l'île de France, mais sans en préciser l'issue. Les frégates rencontrent enfin des vents favorables et accélèrent leur allure. Elles doublent le cap de Bonne-Espérance et le 18 avril entrent dans l'océan Indien. Le 6 mai au matin, elles sont en vue de l'île de France et bientôt doublent l'île de la Passe, un îlot rocheux arborant le drapeau tricolore situé à l'entrée de Grand Port. Roquebert envoie des signaux qui ne sont pas compris. Aussi craint-il un piège et préfère-t-il attendre la tombée de la nuit pour envoyer à terre deux yoles de reconnaissance. Le lendemain, seul le canot de la Renommée revient, avec la confirmation de l'invasion de l'île par les Anglais. Celui de la Clorinde, avec les 8 marins et l'officier qui les accompagnait, manque à l'appel. Il n'est donc plus possible de secourir l'ancienne colonie. Et s'il suit les instructions qui lui ont été remises, Roquebert doit traverser tout l'océan Indien pour rallier les îles de la Sonde. Or, pour cela, il doit se ravitailler en eau douce et en vivres. Que faire? Il réunit à son bord les capitaines des deux autres frégates et décide de se diriger vers l'île Bourbon, la plus proche. Ils y arrivent dans la nuit du 11 au 12 mai. Là aussi, ils se heurtent à l'ennemi et l'état de la mer ne permet pas de mettre à l'eau des canots. Toujours soucieux de suivre au plus près les directives remises, Roquebert se résout à faire des vivres à Madagascar, où il accoste le 19 mai au sud de Tamatave. Il envoie à terre deux yoles avec des hommes armés pour planter le drapeau tricolore et assurer l'occupation. Le lendemain matin, quatre voiles ennemies apparaissent qui ne cachent pas leur intention d'attaquer les Français. Ce 20 mai à midi, Roquebert décide d'engager le combat et fait former la ligne de bataille par ordre de vitesse, la Clorinde en tête, puis la Renommée, enfin la Néréide. En face, les Britanniques alignent une division sous les ordres du capitaine Schomberg, composée des frégates l'Astrea, armée de 44 canons, la Phobée et la Galatea, armée de 38 canons, et le Racehorse, un brick, de 18 canons en serre-fil. Le combat dure plus de 4 heures, sans aucun résultat. La Néréide, exposée au feu de tous les bateaux anglais, est en très mauvais état, et le capitaine de Maresquet a été tué. Roquebert ordonne au second, le lieutenant Poney, de se tenir près de la terre. Lui continue sa route et bientôt se retrouve seul en présence de la même division anglaise qui engage un combat si violent qu'au bout d'une demi-heure, cerné par les bâtiments ennemis, la Renommée est hors d'état de manœuvrer et doit amener son pavillon. 145 hommes sont hors de combat et Roquebert est parmi les morts. Le lieutenant Duplantis l'a remplacé et c'est lui qui a pris la décision de se rendre. Dans son rapport au ministre de la Marine, on peut lire « Il m'est impossible d'expliquer à votre Excellence comment le capitaine Roquebert vint seul au milieu des ennemis avant que les bâtiments de sa division fussent ralliés. C'est une fatalité dont je ne puis rendre compte que verbalement. » En fait, que s'est-il passé? La Clorinde, qui devait être en tête, a été malheureusement est restée en arrière. Elle a été malheureusement retardée parce qu'un homme est tombé de son bord et donc ils ont sauvé l'homme qui était tombé à la mer. Et au bruit de la canonnade, s'incrique le capitaine de la Clorinde, accourt, mais bien sûr arrive trop tard pour intervenir sur les lieux du combat. Donc il s'éloigne. Sur la Néréide, voyez l'état de la Néréide à la fin du combat, le lieutenant Poney, ne voyant plus les deux frégates, décide de mettre à l'ancre devant Tamatave, où il est attaqué le 25 mai par la même division de Schomberg, ne pouvant plus livrer combat. Il capitule honorablement, obtenant que les officiers marins et soldats de la frégate soient rapatriés en France aux frais du gouvernement anglais. La Renommée et la Néréide ont été reclassées parmi les frégates anglaises, la première sous le nom de Java et la deuxième sous le nom de Madagascar. Vous voyez ici la renommée qui a été rebaptisée par les Anglais Java et qui a été capturée par un bateau américain, le Constitution, en 1812. Cette bataille de Tamatave est le dernier engagement de la campagne de l'île Maurice qui a duré de 1809 à 1811. Elle met fin aux tentatives françaises de désorganisation des routes commerciales britanniques de l'océan Indien et confirme la prédominance de la Royal Navy dans ses eaux jusqu'à la fin de l'Empire et au-delà. Quant au capitaine Saint-Cricq, le 30 mai, il vient mouiller la Clorinde à Mahé dans les Seychelles pour faire des vivres, mais au lieu de mener la frégate à Batavia comme ils en avaient reçu l'ordre, il décide de rentrer à Brest. Il y arrive le 24 septembre 1811 après avoir échappé à un puissant vaisseau anglais en mer d'Iroise. Le 18 mars 1812, le capitaine Jacques de Saint-Cricq est traduit devant un conseil de guerre. Il est déclaré coupable d'avoir désobéi aux ordres de son commandant. Il est cassé, déclaré indigne de servir et condamné à la détention pendant 3 ans. De plus, il est dégradé de la Légion d'honneur. Mais le 21 avril 1814, il est réintégré au service dans le grade de capitaine de vaisseau avec le rang qu'il occupait avant sa radiation des cadres. On peut se poser la question de savoir ce qu'a voulu sous-entendre dans ce rapport le lieutenant de vaisseau Duplantis, mais nombreux sont ceux qui pensent que Roquebert s'est porté seul au-devant des ennemis, concentrant tout leur feu sur la renommée, sur lui et sur la renommée, pour protéger les 2 autres frégates de sa division. Je vous remercie.
Ces marins qui ont donné leur nom au quai de Bayonne, vous venez de suivre la seconde et dernière partie de la conférence de Marilyn Chevrel de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, conférence enregistrée le 22 septembre 2021 à la Peña Taurine Côte Basque, conférence proposée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne.